L'Épître de Paul aux Éphésiens. J'ai participé à cette étude-là, c'est la troisième fois. J'ai eu la merveilleuse opportunité d'enseigner la prière de Paul aux Éphésiens dans le chapitre 1. Ça, c'était magnifique comme étude. J'ai aussi la chance d'enseigner en chapitre... Oh boy! Ça va faire chaud, hein? Dans le chapitre 4, je pense, parlant de se dépouiller, de repouiller. Il y en a qui étaient là, hein? Rappel de mer. Je pouvais pas m'empêcher de le dire. Et là, on est rendu dans le combo spirituel. On va juste lire quelques textes en introduction, puis je vais vous parler de ça. Donc, dans les textes qui ont précédé, on a lu « N'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » J'imagine que c'est la prière de tout le monde, hein, de tenir ferme. J'ai des amis, j'ai des connaissances qui ont bien parti avec le Seigneur et qui boitent toute leur vie avec toutes sortes de différentes choses, puis disparaissent, puis reviennent, puis que, oh Seigneur, que je puisse tenir ferme dans le mauvais jour, résister dans le mauvais jour et tenir ferme, même quand tout est surmonté. Mais j'ai une citation ici de C.S. Lewis que je trouve très intéressante. C'est dit, « Nous sommes portés à commettre au sujet du diable ou de ses envoyés un de deux erreurs opposées, mais d'une égale gravité. L'une consiste à nier leur existence. Soit en réalité, il y en a même qui disent croire au Christ, qui s'appellent chrétiens, mais qui vont dire que le diable n'existe pas, qu'il n'y a pas d'esprit malsain, puis il n'y a pas rien qui se passe dans un monde spirituel parallèle ou l'ombre de notre monde. Il se trompe. Et c'est une erreur. Paul nous l'a dit, Jésus l'a dit. On le voit. Mais l'autre a le porté une attention excessive et malsain. Et je dois vous avouer que je n'ai pas nécessairement été heureux d'avoir le texte que j'ai à faire ce soir. Je ne sais pas si ça arrive à d'autres qui enseignent ici, mais ça arrive des fois quand on tombe sur une et on dit je pense que je l'aurais laissé à quelqu'un d'autre, celui-là. Je ne sais pas, Adamo qui vient de l'Afrique, qui a vu toutes sortes de choses dans le monde spirituel, hein, qu'on ne voit pas ici en Amérique du Nord. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Je ne sais pas, très bon, n'importe qui. Mais le Seigneur a choisi, Adamo l'a prié tantôt, le Seigneur a choisi, c'est moi qui le fais. Et je suis un peu mal à l'aise parce que, j'ai entendu tellement de messages où c'est quasiment comme si on devrait craindre de sortir la porte. On devrait regarder et vérifier partout. Puis chaque pensée, il faudrait qu'on réfléchisse. Ça vient-tu du diable ou ça vient-tu de moi? Ça vient de l'esprit? Et on vit dans une espèce de maladie mentale de toute pensée que tout vient du diable. C'est « the devil made me do it ». C'est le diable qui m'a fait faire. Mais l'autre extrême est aussi drôle. Puis je vais vous montrer quelques photos. Okay? Vous allez voir peut-être ce que je veux dire. C'est, des fois, quand le diable peut être trop grand puis peut prendre trop de place, mais l'autre aussi, c'est que des fois, on peut présenter les armes de Dieu d'une façon tellement ridicule là, que ça perd tout sens pour nous autres. Et là, j'ai cherché sur Internet parce que je savais que ça ne serait pas long que j'en trouverais. J'ai trouvé quelques-uns. C'est beau, hein? C'est inspirant. Bouclier dans une... Il est gaucher, j'ai remarqué. Bouclier d'une main droite, l'épée en arrière, puis des cheveux, je ne sais pas trop quoi, là, qui en arrière dans le vent. Puis là, il y a un masque. Il me semble qu'ils n'ont pas parlé de tout ça dans le texte. Tu sais, on a un autre. Là, c'est version orientale. Donc là, il faut profiter avec Tigre et Dragon et tous les films de Tarantino et des choses weird là, qui sortent de la Chine et du Japon. C'est pas tout à fait ça, hein? Et là, ça s'empire. C'est ça. Et là, on essaie de prendre les armes du chrétien au sérieux avec un petit bonhomme, avec une ceinture sur laquelle c'est écrit « Vérité ». En tout cas, « etc. » Puis ça s'empire encore, croyez-le ou non. Là. On n'a pas atteint le fond. Des images qui démontrent mal, vraiment mal, là, ce qu'on a supposé comprendre ici. Là, j'imagine le pauvre petit gars. Il travaille fort, puis il fait un beau petit costume, mais je me demande jusqu'à quel point il a saisi quoi que ce soit sur les armes du chrétien. Là, il y a un bouclier, puis une cuirasse, puis une épée, puis une casque. Puis j'imagine qu'il doit avoir de quoi à ses pieds aussi, là, ça fait partie. Mais je ne suis pas sûr que le petit bonhomme ait appris ce qu'il faudrait qu'il apprenne de ça. Puis je ne suis pas sûr que des images comme ça vont nous aider. Et même si ça s'empire encore, on n'a pas atteint le fond des berries. Okay? Je vais vous montrer ça. Ça m'a traumatisé. Des PJs, c'est des pyjamas. Et là, c'est quelqu'un qui a créé, et c'est réel ça, des pyjamas dans l'armure de Dieu. Et l'histoire qui est là parle d'une madame, là, qui avait, sa fille avait peur la nuit, fait qu'il priait, qu'il mettait toutes les armes de Dieu avant qu'elle se couche pour pas qu'elle ait peur dans le noir. Puis on pensait une merveilleuse idée que tous les enfants pourraient se coucher avec ce genre de choses-là. Là, je me dis, là, on a vraiment rendu loin de ce que la parole nous dit. C'est spécial, hein? Donc, c'est ça. Donc, je crains ces choses-là. Puis moi, j'espère arriver à quelque chose de plus sensé. Donc, on a le thème du livre. C'est quoi le thème du livre des Éphésiens? Dis-moi pas, vous venez nous écouter, nous entendre semaine après semaine. C'est l'unité dans l'Église. Alors, vous allez voir sur l'Internet, là, on a même une super belle bannière qui a été faite pour les prêches. Mais l'unité dans l'Église. Et moi, je me demande, tenir ferme, peux-tu avoir rapport avec l'unité? Pourrais-tu avoir quelque chose pour nous apprendre là-dedans aussi? On va en parler un petit peu plus tard. Voir si c'est un travail d'équipe. On est dans une section pratique, mais qui précède, qui postcède. En tout cas, j'ai dit des niaiseries à ce soir. J'avais comme Raphaël, là, je suis dans son élan de dire toutes sortes de niaiseries. Qui postcède une section doctrinale. Et je me rappelle, on en avait parlé plusieurs fois. Pas oublier là, que tout ce qu'on voit dans les chapitres 4, 5, 6, ça vient puiser, c'est des racines là, vont puiser dans les chapitres 1, 2, 3. Chapitre 1, 2, 3 qui finit avec un des versets que j'aime le plus en Éphésiens. Je l'ai ici. Vous pouvez tourner si vous voulez, il n'est pas loin. Hein? Éphésiens 3, les derniers versets qui sont le 20 et 21. Vous allez peut-être voir même un certain rapport avec notre texte ce soir. C'est dit, or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Dieu agit en nous. Dieu travaille en nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il y a un combat. Et on va apprendre, je vais tenter de vous montrer d'une façon sensée et raisonnable, d'une façon pratique, c'est quoi ces armes du chrétien qui sont là disponibles pour nous. Pour nous défendre dans toutes sortes de situations de situations d'attaque et de difficultés. On va juste prier avant de commencer. Donc, merci Seigneur pour ce rendez-vous que tu nous as donné ce soir. Merci pour l'occasion que j'ai, pour l'opportunité que j'ai d'enseigner ce texte. Merci Seigneur pour la protection que tu nous donnes contre les attaques et dans la guerre, qu'on puisse avoir confiance. Enseigne-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, qu'on parte d'ici avec une nouvelle vision de la vie que tu as pour nous. Enseigne-nous à travers ta parole, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais grâce, surtout, à ceux qui m'écoutent. Amen. On va lire Éphésiens 6, 14 à 17. Bon, ensemble. Alors, moi, je l'ai pris de la colombe. Vous pourrez le prendre de votre Bible à vous. C'est pas grave, ça ne va pas être très différent. Donc, tenez donc ferme. Sachant qu'il y a un combat spirituel, sachant qu'on fait affaire au diable et ses envoyés, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'ordre principal qu'on a ici, tenir ferme. Tenir ferme. Le Seigneur ne nous appelle pas ici à gagner du terrain. Il ne nous appelle pas ici à nous battre pour avancer, pour gagner quelque chose. Ce qu'il veut de nous, Et pourquoi il nous a équipés? C'est pour qu'on tienne ferme dans notre foi. J'ai l'image qui me vient dans la tête tout de suite, je l'ai mentionné tantôt, c'est tenir ferme, c'est tenir la ligne. J'imagine, j'ai vu un film Gladiateur, je pense, ça commence dans en Angleterre, puis là tu vois tous les centurions romains, tous les soldats qui sont en ligne, là, avec tous les boucliers montés. Puis tu entends les capitaines là, qui voyagent, qui disent, tenez ferme, brisez pas la ligne, rompez pas la ligne, tenez, laissez-les pas passer. C'était la commande, c'était le désir, c'était leur façon de faire la guerre. C'était de tenir sur leur position et de surtout ne pas se faire pousser. Contre les ruses du diable qui sont mentionnées dans le texte. Le diable, on est supposé tenir contre lui. Et comment qui est le diable? Va falloir qu'on comprenne. Va falloir qu'on prenne un instant dans ce contexte ici pour voir quelles sont ces ruses-là du diable. Je vais commencer par présenter les deux qui sont en bas, Job et Paul. En réfléchissant les différentes fois qu'on a vu le diable agir dans la vie des gens, puis on a pu avoir une description pour confirmer que c'est lui. On a Job. Le diable est allé devant Dieu, puis il a dit, « Regarde cet homme juste. Il est juste parce que tu le bénis. Enlève ses bénédictions, tu maudiras. » Et Paul, qui a eu un envoyé de Satan pour le souffleter, pour le battre, pour lui faire mal. Est-ce que c'est ça les ruses du diable? Ben, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est la maladie physique, les problèmes physiques qu'on va parler ici. Je ne suis pas sûr que c'est ces choses-là. De toute façon, on va voir les âmes qui vont passer. Il n'y a pas de défense dans ces cas-là. La foi ne nous enlèvera pas la maladie. La justice ne nous enlèvera pas la maladie. Mais le diable travaille à travers ces choses à d'autres fins. Lui, ses fins, c'est toujours, on le voit, avec Ève dans le jardin. Il vient avec des questions. Il vient semer le doute. Finalement, il arrive avec un mensonge. Ève, elle mord. Puis elle a plongé toute, elle, avec Adam, bien sûr, plongé toute l'espèce humaine dans la chute. On voit que la même chose, même genre de stratégie vient plus tard avec Jésus dans le désert. Le diable qui arrive avec ses demi-vérités. Il vient citer la parole même à Jésus. Il dit, donnez l'ordre à ses anges. Ne pas te laisser heurter un pied contre un père. Pitche-toi en bas, tu vas voir. C'est vrai, mais c'est pas vrai comme ça. Pas vrai comme il l'a présenté. Puis toutes sortes de faux raisonnements. Toutes sortes de faux raisonnements. Que le diable lui donnerait les royaumes de toute la terre. Mais il était à lui de toute façon. Il fallait juste qu'il attende la fin du monde. Et le diable dit, je vais te le donner tout de suite. Tu peux tout l'avoir. Donc, on voit les stratégies du diable. Il nous arrive avec des questions, des doutes, des mensonges, des demi-vérités, des faux raisonnements, puis il nous pousse à nous changer d'idée face à Dieu. Il nous pousse à nous enlever sur le solide fondement qui est notre foi dans le vrai Dieu, qui dit la vérité et qui s'occupe de nous et qui agit dans nos vies. Ça, c'est les ruses du diable. Puis s'il nous frappe avec la maladie, ben c'est pour nous décourager. C'est pour détruire notre foi en Dieu. Donc, on a une protection. On va voir une protection spirituelle contre des attaques spirituelles dans nos cœurs, dans nos pensées. Et on va essayer de regarder la série. Donc, on va commencer avec le premier. Vous voulez tenir ferme? Tu veux tenir ferme? Voici les outils que Dieu te donne. Et ça, je trouve ça le fun. Je peux le dire avec assurance. Parce que c'est Dieu qui le dit. C'est la parole qui le dit. C'est pas William qui dit vous avez des super de belles outils, moi j'ai des bonnes pensées, des bonnes réflexions, c'est la parole. C'est Dieu qui a dit à travers Saint-Paul quelles sont les armes, les outils qu'on a pour tenir ferme, pour garder notre esprit, garder notre âme accrochée solidement à ce Dieu dans toutes les situations de vie. Donc, tenir ferme contre le diable, premièrement, par la vérité. Par la vérité. Vous regarderez le deuxième verset que j'ai ici. Je suis la vérité, Jésus-Christ. Et je veux faire une petite mention ici, je veux faire une petite parenthèse. Déjà, j'ai une parenthèse en commençant. Ça va mal. Mais je veux juste mentionner que toutes ces armes-là que nous avons, elles ont déjà été achetées par Christ. Elles nous ont déjà été données par lui. Je vous présente. C'est pour l'afficher en avant, mais on a premièrement la vérité qu'on voit ici. Jésus est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, il dit. Attachez, prenez la ceinture de la vérité. La vérité est importante, mais Jésus est la vérité. Puis nous l'avons, lui, par la foi, On a la vérité. On va parler de la cuirasse de la justice. 1 Corinthiens 1:30 qui dit, vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous justice. Jésus-Christ, notre justice. On va parler de la préparation ou de les bonnes dispositions que l'Évangile nous donne. Éphésiens 2:9 qui nous dit, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Déjà, c'est gagné par Christ. Déjà. La foi, bouclier la foi, dit, en Romains 10:17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Même la foi, on va la trouver en Christ et en sa parole. Le salut. J'aime bien une seule chanson que je connais de Richard Toupin. Il n'y a du salut en aucun autre. Pas d'autre chose. Je connais... Tu veux chanter, Benoît? Vas-y. Non? C'est bon. Mais salut. Il n'y a du salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel vous devriez être sauvé. Par le nom de Jésus-Christ, on est sauvé. Même l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. L'Esprit. Jean 15, 26 nous dit, parle du consolateur, l'Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Et la parole, en Jean 5, 9, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à moi. Et Hébreux 1, 1 et 2 qui dit, après avoir parlé de plusieurs manières, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils. Tous les âmes qu'on a, qu'on va présenter ce soir, oui, on va avoir les saisir, oui, on va avoir développé dans nos vies. Mais je ne pense pas que nous qui sommes en Jésus-Christ, qu'on a besoin d'aller chercher le salut, on a besoin d'aller chercher de la foi, on a besoin d'aller chercher la vérité. Nous l'avons tous en Jésus-Christ. Déjà, c'est gagné. Et j'espère, s'il y a un message que vous partez avec ce soir, c'est avec cette assurance-là, cette confiance-là, que c'est pas, on n'a pas à partir d'ici avec une liste d'épicerie de plein de choses. Il faut qu'on travaille, faut qu'on travaille, parce que sinon on va être détruit. C'est déjà acquis. Christ les a déjà acquis pour nous. Mais comme j'ai dit, c'est pas seulement une position. Il faut qu'on le saisisse. Il faut que ça se développe dans notre comportement aussi. Donc, on a premièrement la vérité comme ceinture. Je vous fais remarquer, même dans les meilleures versions, le mot ceinture ne se trouve pas là. Parce qu'il n'est pas là dans le grec. C'est « ayant été saint de vérité ». Ce qui nous donne un indice déjà sur comment interpréter toutes ces choses-là. Ça, c'est une des niaiseries que j'ai entendues pendant ça. Il y a des gens qui essaient de faire comment que la ceinture, c'est quoi le rapport avec la vérité puis la ceinture pour faire que Paul a fait cette comparaison-là. Puis là, ils disent long paragraphe pour expliquer ça. Mais finalement, il n'a même pas nommé la ceinture ici. Le tout premier, il n'a pas nommé l'objet. Il est en saint de vérité. L'important, je pense, pour nous dans l'étude ici, c'est pas la ceinture, c'est pas le cuirasse, c'est pas le bouclier, c'est la vérité, la justice, la foi, le salut. Et on va en parler comme ça. Vous allez voir en avançant. L'important, c'est pas l'objet de l'armure romaine, mais le caractère qu'on veut développer dans le chrétien. Donc la vérité, c'est une protection contre le diable. Le diable, vous avez vu qu'est-ce que ça veut dire, diable? Jeff, tu le sais-tu? Qu'est-ce que ça veut dire, diable? Calomniateur. Quand on calomnie, on dit-tu la vérité? Non, hein? Justement, menteur. Il est écrit, le diable menteur, le père du mensonge. Et la vérité nous protège contre lui parce qu'il n'est pas capable. Il n'est pas capable de résister à ça. Il n'est pas capable d'accepter la présence de la vérité. On le voit, Ève a été attaquée par un mensonge. Elle n'a pas resté sur la vérité, elle a accepté ce mensonge-là, puis elle est morte. Mais, donc la vérité est une protection contre le diable. Mais on peut voir bien, par exemple, comment la vérité est importante. J'ai lu une histoire dans un livre dans la maison, ça s'appelle « The Bathroom Reader », le lecteur de salle de bain. Puis il y en a une vingtaine, là, merveilleux, avec toutes sortes d'histoires. Il y en avait un d'un homme qui essaie d'échapper du prison. Puis tu sais, il m'apporte des gros linges. Non, c'est pas ça, c'est un voleur, je pense. Il essaie de voler quand tu vois. L'histoire, c'est pas grave, là, exactement le détail, mais lui, il avait ses gros pantalons, puis il avait pas de ceinture. Fait qu'il poigne le TV, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait, puis il poigne ses pantalons d'une autre main, puis il essaie de courir. avec ça. Et comme vous pouvez imaginer, ça va mal, les pantalons descendent, finalement, il s'est fait attraper. Pourquoi? Par manque de ceinture. Par manque de ceinture. Et je trouve que la vérité, c'est un bon exemple. Paul a bien choisi lui. Sans vérité, il n'y a rien d'autre qui se tient. On ne peut pas parler de justice. On ne peut pas parler de la parole de Dieu. On ne peut pas parler du salut sans qu'on déjà en établisse vérité. C'est le début de tout ça. Comment qu'on fait pour développer la vérité dans la vie? Parce que si l'armure va servir, il va falloir qu'on le développe. Est-ce que la vérité est importante dans notre société? Moi, je dis mes élèves, quand je les accuse de quelque chose, tout d'un coup, c'est très important, la vérité. Mais quand je sors contre l'autre, là, qui est traité d'un nom, là, ça ne le tente pas. Là, me conter toute l'histoire pour dire comment ils l'ont écœuré pendant 5 minutes avant. On voit à la TV toutes sortes de choses, des gens qui se présentent comme qu'ils ne le sont pas. On vit un mensonge, un gros mensonge dans les médias au Québec et partout dans le monde. Les gens refusent de se présenter tels qu'ils sont. Notre société ne met pas vraiment d'emphase sur la vérité. Ce qui est important, c'est ce qui paraît. Même des élections, je suis tanné d'entendre ça, des gens qui disent « Moi, je veux gagner la prochaine élection. » Non, mais excuse-moi, moi, je veux voter pour quelqu'un qui croit en quelque chose et qui veut faire quelque chose. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui veut juste être un leader. La vérité n'a aucune importance pour nous. La vérité est subjective. Chacun peut avoir sa vérité à lui. On va parler avec des gens du Seigneur Jésus, puis ils vont nous dire « Oh, c'est bon, je suis content que tu sois là-dedans. » Ça te fait du bien, là, je suis content. Je me demande, par exemple, jusqu'à quel point ces mêmes attitudes-là sont rendues en nous. Je me demande combien de fois qu'on regarde quelqu'un et dit « Il a l'air bien. » Je parlerais-tu du Seigneur? Je veux-tu essayer d'y dire lui qui est pécheur? En es-tu vraiment convaincu, nous? En es-tu bien fondé, bien assis sur la vérité? Est-ce que la vérité est importante pour nous? La vérité absolue, la vérité telle qu'elle est révélée dans la parole de Dieu. Aussi, Éphésiens 4:15 nous dit dire la vérité avec grâce. On le dit-tu? Ou on se ferme la boîte, puis on ne brasse pas trop. Éphésiens 4:25, il dit « C'est pourquoi rejeter le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. » Combien de fois qu'on dit à nos amis, 5 minutes après une discussion, comment que telle chose nous a dérangé. Quand la personne était en face de nous autres et on fait quelque chose, puis on fait semblant de rien, puis 5 minutes plus tard, là tout d'un coup, on a chialé. Vérité. Est-ce que la vérité est importante, essentielle pour toi? Est-ce que tu es une personne de vérité? Connais-tu réellement tes qualités et tes talents? Il y en a, Raphaël est super bon à la guitare, puis il en aime bien les louanges. Des fois, il y a des choses qui peuvent arriver. Ouh, c'est pas grave. Mais il en connaît-tu? Moi, j'enseigne ici ce soir, puis je peux dire que je n'ai pas toujours senti prêt. Peut-être vous me direz que je ne l'étais pas non plus. Mais à un moment donné, il faut apprendre à se connaître dans ses qualités aussi, dans ce qui est bien. En es-tu prêt à accepter ces choses-là? Ça, c'est, pour moi, ça a été dur avec la musique. Le nombre de fois dans ma vie que quelqu'un me dit, c'est vraiment bon à guitare. Qu'est-ce qu'il dit? À un moment donné, il faut accepter. OK, oui, Dieu m'a donné un don, merci bien. Il faut apprendre. Il faut apprendre aussi à reconnaître ses défauts. Je vois ça. Je vais dire que j'ai un enfant hypothétique. Hypothétique, c'est comme ça se dit? Oui. C'est pas un des miens pour le vrai. Mais il est super impatient, mais il ne se rend pas compte. Il ne sait pas. Et ça amène toutes sortes de drôles d'histoires, comment il peut nous supérer, puis hypothétiquement, bien sûr, rouler les yeux, puis nous supérer après. Il ne reconnaît pas non plus ses défauts, ses difficultés, pour au moins pour pouvoir les admettre, puis d'être vrai devant les gens. Franchement, quand nous acceptons les mensonges dans nos vies comme ça, de ne pas reconnaître nos qualités, nos habiletés, les dons que le Seigneur nous a donnés, d'un côté, et de ne pas reconnaître non plus les défauts, les difficultés, les péchés que nous avons, pour être rapide à les confesser, on donne la place au diable. La ceinture n'est pas bien mise. Il y a toutes sortes d'applications qu'on pourra sortir pour ça. Mais moi, je vais essayer de toucher ce point-là. Ça se peut-tu que quand tu entends, quand tu as le goût de dire un mensonge, quand tu dis quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, sur toi, sur un autre, ça se peut-tu que ce soit une attaque du diable qui essaie de travailler sur, dans tes pensées sur la vérité, d'éroder l'importance que tu lui donnes? Ça se peut-tu? Et ça se peut que ce que tu as besoin, c'est la vérité. Tu as besoin d'apprendre à dire la vérité à toi-même et aux autres. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu que tu as besoin de te montrer vrai à quelqu'un? On a eu une bonne discussion à notre cellule de prière il y a quelque temps. Et comment que c'était important pour un homme, pour une femme, pour une jeune, pour tout le monde, d'avoir quelqu'un à qui ils peuvent dire comment que ça se passe réellement. Quand c'est difficile, mais pas juste quand c'est difficile, quand nous sommes difficiles. De dire, je sais que je lutte avec ça. Regarde-moi, parle-moi-en, prie pour moi. C'est important d'avoir des gens où on peut être vrai. On veut mettre la, mettez pas de ceinture là, le matin, OK? Pensez pas là, à ça. Essayez pas de mettre une ceinture. Soyons vrais. Que la vérité soit importante pour nous. Deuxièmement, on a la justice. Et le temps file. Vous allez être ici jusqu'à 9 heures. La justice. Donc, premièrement, tenir compte le diable par la vérité, mais aussi par la justice. On voit ici, Jésus-Christ a été fait pour nous justice. La justice de celui qu'on doit être devant Dieu. L'homme, comme il est supposé être, en bonne relation avec Dieu. On le voit ici. Quelque façon, on veut arriver. Comment qu'on peut réussir à être juste? Premièrement, Jésus-Christ est notre justice. En es-tu en lui? On le croit-tu? Est-ce qu'on a saisi la substitution qui a été faite? Que c'est merveilleux. Je me traîne-tu encore ma liste de péchés pour me décourager et dire, je suis un homme injuste, moi? Ou je l'ai pris la liste à Jésus, les qualités, Dieu me voit comme ça, puis il me fait une personne comme ça. Je l'accepte-tu? Première chose. Deuxièmement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute injustice, nous pardonner de nos péchés, nous purifier. Je voulais mettre l'emphase sur la purification des injustices. Des fois, on n'est pas justice, on n'est pas juste. On n'a pas cette justice-là dans nos vies. On confesse-tu nos péchés? À Dieu surtout, pour qu'il nous purifie de nos injustices. Et finalement, Jacques 5,16, un verset très fort, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez afin que vous soyez guéris. » Jacques a dit plusieurs, « étaient malades. » Il y avait besoin. Quand les gens étaient malades, c'était ça une partie de la solution pour ça. Comment développer la justice? Ben, premièrement, la justice par la foi en Jésus-Christ. La justice par la confession de nos péchés envers Dieu. Et là, faut que je m'arrête. Là. Combien de temps que je me passe à faire ça? Quand est-ce que je fais ça? Je me lève-tu le matin? C'est dans ma couchant le soir? Je me demande. En fait, j'ai l'impression, comme on devrait apprendre à se dire la vérité constamment, puis agir en fonction de la vérité, il faudrait aussi qu'on soit rapide à admettre nos fautes, à les confesser, premièrement à Dieu, ensuite envers les hommes. On vient voir comment les pièces de l'armure s'emboîtent l'un dans l'autre. Et on ne peut pas avoir vérité sans justice, mais même la justice, ça va être selon la vérité, puis c'est avec la vérité qu'on va réussir à l'avoir. Et aussi, la justice, on peut arriver à l'avoir par la lutte contre le péché. Là, on va avoir prié le péché. J'ai écrit la péché. Le péché, je le sais mieux, moi. Bon, c'est ça, la lutte contre le péché dans nos vies. Quatre moyens. Encore une fois, qu'on ne mette pas la justice, cette cuirasse de la justice, il dit, hein, si on peut penser à mettre une cuirasse, soyons justes. On demande premièrement par la foi. Deuxièmement, par la confession et la purification que Dieu peut nous donner. Il se peut-tu que des fois, on se sent indigne. On arrive au repas du Seigneur, puis on n'a pas le goût de le prendre. On arrive dans un temps de prière, puis on ne sent pas digne de lever notre voix vers Dieu. On ressent notre injustice. Ça se peut que tu, que des fois c'est l'adversaire qui attaque et on a besoin de justice par la foi et par la confession. Ça se peut-tu qu'on a besoin d'arrêter de se défendre face à la critique et qu'on accepte le commentaire de l'autre et qu'on apprend de notre injustice et qu'on se fasse laver de notre injustice. Ça se peut-tu que ce soit une façon pour le diable de rentrer dans notre vie et de nous séparer des autres, nous enlever notre confiance et notre habileté de se battre et de se tenir parce qu'on refuse d'admettre nos fautes et nos défauts? Ben, que le Seigneur travaille dans nos cœurs et qu'il nous donne une justice, premièrement, qui vient de lui, mais aussi qui travaille dans nos cœurs. On contient ferme contre le diable par la vérité, par la justice, et étant prêt à agir. Le mot qui se trouve là, c'est qui est traduit de toutes sortes de façons, hein, c'est vraiment la préparation que donne l'Évangile de la paix. La préparation. Je trouve ça dur à comprendre et à saisir ces versets-là et savoir quoi faire avec ça. L'Évangile de paix donne une préparation, puis je posais mettre ça comme une défense contre l'ennemi. C'était dur à saisir. Mais j'ai trouvé un verset que je trouvais très intéressant en Exode 12, 11. C'est l'Éternel qui lui donne des instructions pour la Pâque. Puis il lui dit toutes les instructions à immoler l'agneau, puis à le faire cuire, à le rôtir tout entier, puis de le manger, puis de mettre le sang sur les linteaux, le seuil de la porte. Puis il dit, voici comment vous mangerez la Pâque. Une ceinture à vos reins, vos sandales à vos pieds, votre bâton à la main. C'est quoi le symbole? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il était prêt à partir. Cette préparation-là qu'il y a dans l'Évangile, en réfléchissant, en priant, en demandant à Dieu, en essayant de comprendre, je pense que la meilleure façon que je peux comprendre ça, c'est que l'Évangile nous rend prêts à toute bonne œuvre. On n'a pas ici une protection particulière contre une attaque particulière du diable. On ne verra pas là, comment c'est quoi le lien. Mais en étant tout le temps prêt, comme un soldat qui est chaussé, hein, il est prêt à partir. Il est prêt à prendre ses choses. Il est prêt à marcher à travers n'importe quelle situation, monter dans les roches ou marcher à travers des épines et des différentes places. Il n'y a pas de problème, il est prêt. Mais que l'Évangile nous rend prêts à toute bonne œuvre. L'amour du Christ nous étreint, Paul écrit en 2 Corinthiens 5, 14. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais que celui qui est mort est ressuscité pour eux. Je vois là-dedans pour Paul comment que lui était constamment prêt à servir, constamment prêt à travailler. Et c'était l'amour du Christ, c'était qu'on voit dans l'Évangile qui lui pousse à être prêt toujours, toujours, en toute occasion, en toute circonstance, avec toute personne, à faire le bien. Mais c'est la préparation qui vient de la bonne nouvelle de la paix. Là que vient le verset, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'imaginais un soldat romain, mais disons, un soldat pas comme les autres. Imagine les... Je retourne à mon histoire au début. Là. On fait la guerre en Angleterre. Puis les Romains sont tous là dans la ligne avec tout le stock et tout prêt. Puis toi, tu as l'ennemi là au bord. Dis, moi, je suis du mauvais bord, moi. Je le sais. Ça va finir mal, mon histoire, si je reste ici. Je vais me rendre à l'ennemi. Et là, tu déposes tes armes. Tu t'en vas à l'autre bord. Pour être incroyablement surpris quand je suis accepté dans l'armée romaine. Il dit, c'est excellent, tu viendras à l'autre bord. Et pas juste qu'il ne me tue pas, mais il me donne un casque, puis une épée, puis une cuirasse, puis une ceinture, puis toute la quête, des souliers, puis me mettre dans cette ligne-là. Et là, tu te poses la question, là. L'autre qui est à côté de moi, là, es-tu aussi fin que le capitaine en haut? Lui, il croit-tu que j'ai changé de bord? Même le capitaine, il le croit-tu, ils vont juste me mettre en pièces aussitôt que la guerre commence. Mais là, on a l'assurance ici. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On a juste un ennemi. Si Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je trouve que c'est la préparation qui est dans l'Évangile de la paix. La paix avec Dieu. Quelle bonne nouvelle! Puis ça nous met prêts, prêts à travailler, prêts à se battre, prêts à œuvrer, prêts à faire tout ce qu'on peut. Ça m'amène à poser la question, quel effet l'Évangile a-t-il eu sur toi? Est-ce que tu es disposé à tenir ferme? J'en connais. J'ai passé des époques dans ma vie où j'étais bien prêt à me rendre rapidement. J'ai pas saisi l'Évangile. J'ai pas saisi la paix avec Dieu. J'ai pas réalisé jusqu'à quel point c'était merveilleux. Je l'avais pas à l'esprit. T'es-tu disposé à lutter, à travailler dans l'Église, à travailler pour le royaume de Dieu, à mettre la main à la pâte et utiliser tes dons, tes habiletés pour faire quelque chose? Toutes sortes de choses. Moi, je m'occupe des groupes de jeunes à 9 à 12 ans. On a besoin de toutes sortes de gens là-dedans. Je sais qu'il y a des ados aussi qui sont en bas. On cherchait des moniteurs des cordes du dimanche pendant longtemps. Finalement, je pense qu'il y en a pour après Noël. Puis on va pouvoir ouvrir un autre groupe. On cherche constamment des gens pour faire le ménage. Je sais qu'on parle de ça toujours, toujours. Mais ça nous prend aussi des gens qui prient. L'écho, là, il y a toute une page. Que c'est plein de requêtes de prière. Y a-t-il des gens qui sont prêts à soutenir ces gens dans la prière? À se donner pour ça? Y a-t-il des gens qui sont prêts à donner de l'argent pour payer ce qu'on a à payer? Y a-t-il des gens qui sont prêts à parler, à ouvrir la bouche, puis à se risquer pour Jésus, pour Dieu? En es-tu prêt à partager cet évangile de paix-là? On est-tu disposé à le faire? On arrive-tu au travers? On arrive-tu au Café Morgane? Je ne sais pas trop où ce que vous pouvez aller. Disposé à voir s'il y a une occasion de parler avec quelqu'un. Il y a une Mattioli qui était à Sola, c'était il y a quelques semaines. Lui, il a donné du temps dans son horaire. Puis il s'est rendu sur la place de la ville, puis je cherchais quelqu'un. Tu t'attends-tu de venir avec moi? On va aller ensemble. On va prendre du temps. Lui a dit, c'est en prenant une bière ensemble. Je trouvais ça vraiment drôle. MacArthur était parti. Là. Une chance. Ça aurait drôlement passé, peut-être. Mais que veux-tu? Lui est allé prendre une bière avec l'autre. Puis il a dit, on le prenait. J'ai dit, moi, je te rencontrerai ici la semaine prochaine encore. Si tu veux bien. Moi, je te paye une bière, puis on va jaser ensemble, parler de ces choses. C'est comme ça qu'il est rentré dans la vie de ce monsieur-là, ce jeune homme-là. Puis il a pu rentrer dans la maison, là, cet homme-là, à rencontrer sa mère et son père. Lui, il était cocainoman ou quelque chose comme ça. Puis il a pu soutenir, prier avec cette famille, travailler avec cette famille-là. Mais il était disposé. Il a travaillé son horaire, il s'est fait de la place pour pouvoir parler, pour pouvoir aimer. Est-ce que l'Évangile a eu cet effet-là sur toi? Est-ce que l'Évangile te pousse où on vient à l'Église, on entend parler, c'est bien beau, on tient avec nos amis pendant la semaine? L'Évangile devrait nous rendre prêts à agir. Et se peut-tu que quand on se sent fatigué, quand on se sent lassé, quand on n'a plus le goût, quand on dit « je suis fatigué, j'ai donné, moi j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, c'est tour à l'autre, je veux prendre une petite pause. » Quand tu dis « j'ai trop de jobs, j'ai trop pas assez de temps pour moi, il faut que je passe du temps avec ma blonde ou mon chum. » Et se peut-tu que c'est l'adversaire qui t'attaque et il t'empêche d'être disponible et d'être prêt à agir? Et ce que tu as besoin, c'est de retourner à l'Évangile de la paix et te laisser préparer pour toute bonne œuvre, les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Donc, on se tient contre le diable par la vérité, par la justice, en étant prêt et par la foi. La foi, c'est comme un bouclier qui éteigne les attaques brûlantes du diable. Et on peut voir bien comment que la foi est importante, comment que la foi peut nous servir comme défense contre le diable. Si lui est menteur, puis il dit juste des mensonges, puis il veut juste nous faire douter, mais d'être solide dans notre foi, c'est évident qu'on va te protéger contre lui. Et la foi est nécessaire même pour toutes les autres, je l'ai dit. Comment on peut avoir la vérité sans la saisir par la foi? C'est la foi qui nous fait voir que l'Évangile, c'est vrai. La justice, ben c'est ça aussi, on ne peut pas saisir qu'on l'a, le transfert a été fait en Christ et nous sans qu'on ait la foi. L'Évangile est reçu par la foi, l'assurance du salut qu'on va parler est reçue par la foi. On écoute la parole de Dieu, mais ça ne vaut rien si on ne le joint pas à la foi. La foi est nécessaire à tout. Ça donne une protection personnelle. Je vais juste vous montrer une petite photo que j'ai ici. Ça, c'est une vraie armure des Romains. Mais ce qu'on montre, c'est le bouclier. Là. Ça devait être pesant à porter, ça. Il y avait voir des fois qu'il n'était pas content d'avoir traversé ça, les quelques centaines de milles qui pouvaient marcher dans un court laps de temps, eux autres. Mais voyant comment c'est big, hein, on est capable de se cacher pas mal derrière ça. On se sent en sécurité derrière un bouclier comme ça. Et Paul utilise l'image d'un bouclier pour la foi qui nous protège contre les flèches, les dards, les traits ou le diable. Et ce qui est drôle, c'est que Satan essaie d'attaquer à notre foi. C'est ce qu'on a dit tantôt. Il essaie de travailler par en dessous pour brimer notre foi. Puis Paul il dit, comment on défend contre ça? Il faut avoir une foi solide. Il faut avoir une foi active qu'on travaille, qu'on réfléchit, qu'on pousse de l'avant pour garder notre foi plus intérieure. Et ça nous protège aussi contre des dommages à long terme. Déjà, les flèches, c'est grave. Hein? D'autres films, là, Braveheart, on voit ça clairvoyant. Là, on voit les flèches qui arrivent, qui passent de bord. Ça devait faire mal, ces choses-là. Vraiment, là, pas plaisant. Mais en plus, les Romains et des ennemis des Romains dans ce temps-là, il n'y avait pas juste des flèches. Ils les enflammaient. Puis j'ai compris une partie du problème pour ça, c'est que non seulement ils pouvaient enflammer les constructions dans lesquelles les gens étaient, la ville dans laquelle ils étaient, mais même les boucliers étaient faits en bois. Donc le bois, ça fait quoi normalement? Ben, ça brûle. Et ça pouvait être très problématique. Une flèche enflammée qui rentre et qui reste piquée dans ton bouclier, ben, qui poigne en feu, qu'est-ce que tu vas avoir à faire avant trop longtemps? Ben, tu vas avoir à mettre le bouclier à terre. Puis on voit que monsieur ici, sans bouclier, là, il n'est pas très, très bien protégé. Et c'est là que vient le concept de nous protéger contre les... Il pouvait éteindre les flèches enflammées du diable. Non seulement il nous couvre des flèches, mais ça de l'air qu'il était couvert en cuir, puis il traitait ça avec de l'eau pour que ça soit bien mouillé. Comme ça, là, ça ne prenait pas en feu. Et là, il pouvait tenir ferme comme ça. Et c'est notre foi. Il faut exercer la foi. La foi, ça ne vient pas de seul. J'ai parlé avec un homme de mon école, qui a dit, qu'est-ce qu'il disait donc? Il disait que Dieu, pour lui, là, il nous a créés pour qu'on ait du plaisir, puis qu'on fasse plaisir ici sur la terre, puis qu'on aime les choses, puis qu'on apprécie. Sans avoir trop d'attente envers les autres. Moi, j'ai dit, mais semble, quand j'achète un animal de compagnie, ou même plus quand j'ai eu un enfant, c'était pas pour qu'il reste dans sa chambre puis qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Mais semble, c'est pour avoir une relation avec lui. C'est ça que Dieu veut pas avec nous. Mais semble, tu sais, si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il veut qu'on le connaisse, il veut qu'on l'aime, il veut qu'on. Oui, c'est vrai. Je peux pas argumenter avec ça. J'ai dit, c'est pas de pas avoir d'argument qui va convertir, par exemple. Il dit, lui qui m'a dit, ouais, c'est vrai, il faut avoir la foi. Il dit, moi, j'ai pas cette foi-là. Mais cette foi, c'est pas quelque chose que tu t'es juste qui vit là, là. Tu l'as, tu l'as pas, me semble. Au moins, nous autres, les chrétiens, on peut le travailler. Si Paul dit nous prendre le bouclier de la foi, on peut le travailler. On peut l'exercer. On peut le faire grandir. Et c'est notre responsabilité pour être protégé. Mais je vous ai dit que je n'étais pas parlé d'une meilleure protection en groupe. Donc, on va aller vers notre image préférée des Romains. Attends, oups, j'ai parlé de toutes sortes de choses. On revient. Hein? Des Romains qui se défendent contre tout, sauf Astérix avec son... C'est une potion magique, hein? Mais ce qui est drôle, c'est que c'est assez réaliste. Là. J'en ai trouvé d'autres, des reenactments, je ne sais pas comment on en tout cas. Peu importe. Mais on voit, là, essayer de rentrer une flèche là-dedans. Une carabine aujourd'hui, c'est pas pire, hein? Tu vises la tête, mais avec les flèches, là, d'une distance, en tout cas, moi, je pense qu'ils sont pas mal très safe là-dedans. Et encore, il y a un autre que j'ai trouvé intéressant, je n'avais jamais vu comme ça. Je ne voudrais pas, moi, être en face de tout ça. Je ne voudrais pas être un des ennemis qui ont me dit, tu vas attaquer là. Ils sont très, très bien protégés. Ils sont très, des gars en haut, là, ils lancent le lance avant même qu'ils arrivent. Si jamais j'arrive dans le coin, l'autre en bas, là, il peut me piquer. Puis eux, ils sont très bien défendus, vous voyez? Et je me demande jusqu'à quel point. Paul n'en parle pas. Ça, là, je ne parlerai pas avec beaucoup d'assurance ici parce que Paul n'en parle pas. Mais moi, je dirais, j'ai l'impression qu'il y a de quoi de groupe là-dedans. Je vais juste reculer. Et de quoi de groupe là-dedans aussi? Quand on se tient ensemble, nous autres les chrétiens, là, et quand toute la gang, on s'encourage dans notre foi, c'est comme une ligne de défense, comme on vient de voir dans notre photo. Imagine! Moi, je me vois avec ma cellule de prière. On est tous là avec nos boucliers, tous ensemble. Puis des fois, c'est moi qui est attaqué, là, puis les autres, ils tiennent. Moi, je chambre en l'air, puis il y a d'autres qui tiennent le bouclier pour moi, qui m'aident et qui me protègent derrière ça. Je trouve ça magnifique de penser à comment la foi est une protection. Et on a un long texte dans Hébreux 11. Moi, je vais le lire avec vous autres. Je sais que le temps file, là, je couperai d'autres choses. On va aller lire. Tournez avec moi en Hébreux 11, s'il vous plaît. Verset 32. Ça vaut la peine. Et on sait, l'Hébreux 11, c'est le the Hall of Faith. Pas le Hall of Fame, mais le Hall of Faith. Le temple d'honneur pour la foi. Hébreux 11, 32. Et que dirais-je encore? C'est parce qu'il a déjà parlé d'Abraham, de Jacob, de Moïse, de Rahab, de tout ce monde-là. Puis il dit, que j'y dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, s'échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent le mort par la résurrection. Qu'est-ce qui est merveilleux, ce que la foi peut faire quand on se tient, quand on tient ferme. On va poursuivre notre lecture, par exemple. Donc, des femmes retrouvèrent le mort par résurrection. Oui, je suis un de tout ça. Moi, j'aimerais ça. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet. Bien plus, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Je pense qu'Isaïe a été mis dans un tronc d'arbre vide, puis on scie en deux. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et leur vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre, et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Eux, ils n'ont pas reçu parce que Dieu avait de quoi de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. On parle encore de la foi, chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. L'épreuve de la foi. Courant avec persévérance l'épreuve qui nous a proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur ou le prince de la foi, et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite de Dieu. Et se peux-tu que quand tu te sens fragile, quand tu te sens faible, c'est l'adversaire qui t'attaque. Quand ta foi chambre en lente, quand ta communion avec les autres et tes discussions, Dieu semble loin, Dieu semble pas agir. Et se peux-tu que ce soit l'adversaire qui attaque et que tu as besoin de renouveler ta foi? J'ai encore deux autres à voir dans 30 secondes. Ensuite, sûr de son salut. On voit le casque, ayant pour casque l'espérance du salut, se dit en 1 Thessaloniciens, qui nous aide à comprendre le texte ici, le casque du salut, comme se dit en Éphésiens. Si on n'a pas d'assurance, on n'a pas de puissance. Si on n'a pas de puissance, on est impossible de tenir ferme. Est-ce qu'on est sûr d'être accepté par Dieu? Est-ce qu'on est sûr que nos amis ne sont pas des ennemis? Est-ce qu'on est sûr que le capitaine cherche notre bien? Bien, Romains 5, 10 nous dit, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu pour la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Qu'as-tu l'assurance de ton salut? Première question. Tu l'as-tu? Deuxième et presque plus important à l'aborder, c'est quoi? D'où vas-tu chercher ton assurance? Parce que si ton assurance, tu vas la chercher à la mauvaise place, ben, tu ne l'auras pas quand ça vient le temps. Il tiendra pas. Si c'est parce que tu as fait une prière quand tu étais jeune, ou parce que tu t'es fait baptiser, ou parce que tu connais ta Bible, puis tu connais tes affaires, c'est parce que tu dis que tu crois, parce que tu viens à l'église, puis tes amis sont chrétiens, ils t'acceptent, tu ne fais pas différent, tu es dans ton groupe, là. Tu es face à face, tu es dans une cellule de prière, ou aux aînés, peu importe, là. Puis il n'y a personne qui doute de ton salut, donc toi, tu ne doutes pas non plus. Tu dois être un bon petit Jack, moi. Ça arrive-tu? Alors, si ton assurance, ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, et si ce n'est pas évident dans ta vie par des vrais fruits de repentance et de justice, tu n'as pas affaire à être sûr de son salut. Ton salut, et tu as à travailler ça. Mais, aussi, est-ce que ça peut que quand tu sens perdu, loin de Dieu, délaissé par Dieu, que c'est l'adversaire qui t'attaque et ce que tu as besoin, c'est de retourner et travailler l'assurance de ton salut? As-tu besoin de retourner là-dessus de temps en temps? Et tu rappeler l'encouragement que c'est que je suis sauvé. C'est réglé pour l'éternité. Et finalement, par la parole de Dieu. On voit ici, Ève, elle n'a pas résisté à la parole de Satan. Elle a suivi. Jésus, par exemple, a résisté. Comment il a résisté? Comment il a combattu? Il a combattu par la parole. J'ai juste écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est Jésus, sa réponse, c'était toujours ça. Et Jacques nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez comment? Ben, c'est sûr, avec la vérité de la parole. Question, connais-tu la parole de Dieu? La lis-tu pour la connaître? C'est quand la dernière fois que tu as lu les prophètes? Jérémie, admettons. Moi, je nomme lui parce que c'est récent pour moi. Je viens de passer dedans. Miché, sais-tu un peu de quoi ça parle? Es-tu capable de tracer le plan de Dieu de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, puis de reconnaître les éléments importants? Es-tu capable de comprendre comment que la foi et les œuvres vont ensemble? Tu connais-tu de la doctrine? Tu peux décrire la doctrine de la justification? Je ne parle pas nécessairement, ce n'est pas une cour de théologie, je pense, c'est de connaître les vérités de la parole. Pour quand le doute vient, quand le diable attaque, on peut prendre la parole, on la connaît, puis on peut lui dire, il est écrit. Et ce qui est le fun ici, c'est qu'on a toutes sortes de méthodes pour ça. C'est sûr, on a les dimanches matin, il est merveilleux dimanche soir avec M. Pugh. On a la chance d'avoir Profac, l'autre bord ici. Gilles Despins, là, qui travaille à son doctorat, qui donne des cours bibliques. Ça coûte pas très, très, très cher. Là. Puis c'est ici, c'est chez nous, pas loin. Pas besoin d'aller à Montréal, à Québec, là, puis on a une formation de théologie très bonne. Je vois ici, juste là-bas, la librairie. Faut pas l'appeler une bibliothèque, hein? La librairie. Lisez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres livres? C'est sûr, la parole, c'est le plus important. Mais il y a d'autres livres qui vont nous aider à comprendre et mettre tout ça ensemble. Je suis en train de lire un de John Stott sur la croix du Christ. Et très, très riche. Pour amener une meilleure compréhension de ce que je lis dans la parole. La connais-tu? Et se peux-tu que quand tu te sens impuissant, que c'est l'adversaire qui t'attaque et tu as besoin de fouiller dans la parole, de travailler pour aller voir, pour pouvoir lui répondre? Ça se peut-tu? Tu veux tenir ferme? Comment on va tenir ferme? On va tenir ferme contre le diable par la vérité, par la justice, en étant prêt à agir, à travailler pour lui. Parce que l'Évangile nous pousse à le faire. En travaillant notre foi pour le renforcer, pour le rendre plus fort et plus actif, plus forte et plus actif, active, la foi, hein? Je vais arriver un jour. As-tu l'assurance de ton salut? Ça va combattre. Ça va t'aider à résister. Et connais-tu la parole de Dieu? Je suis sûr que là-dedans, il doit avoir quelque chose. Même si j'ai été plate et tu as perdu un bout, là, il doit avoir quelque chose là qui te dit, moi, là, j'aurais besoin de ça. Regardez, pensez. Demandez à Dieu de travailler dans ton cœur, de te donner des occasions, de mettre le cœur à l'ouvrage, de te décourager. Tu te sens délaissé loin de Dieu, il y a un arme qui est là pour vous. Prenez-le par la foi et travaillez. Seigneur, merci pour la protection que tu nous as donnée contre les attaques de l'adversaire. Aide-nous à le rappeler, Seigneur. L'adversaire n'est pas principalement après nous, est après toi. Et que toi, tu as déjà gagné la victoire. Donne-nous, Seigneur, cet espoir. Ensuite, Seigneur, que la vérité, que la justice, que l'œuvre, que la foi, que le salut, que la parole de Dieu soit important pour nous. Aide-nous, Seigneur, de le développer dans nos vies. Pour qu'on puisse tenir ferme. Pour que toi, tu puisses avoir la gloire d'avoir un peuple qui se tient, qui tient ferme, qui croit en toi. Garde-nous, Seigneur, avec ta bénédiction, par ton Saint-Esprit. Je prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci pour votre patience et à la prochaine.